Un journal présenté par Jeanne Serrin. Bonjour Jeanne.
Bonjour Omi, bonjour à toutes et à tous. Comment peser sur les négociations de paix en Ukraine? Plusieurs dirigeants européens se rendront à Washington lundi aux côtés de Volodymyr Zelensky pour sa réunion avec Donald Trump. Les Européens qui se réunissent cet après-midi en visioconférence pour tenter d'avoir voix au chapitre. Un mouvement de grève générale en Israël, 1 million de personnes attendues et des manifestations dans tout le pays pour appeler à la libération des otages. Au Japon, une campagne marketing entre McDonald's et Pokémon tourne au fiasco. Nous irons au Kenya visiter une exposition contre les violences faites aux femmes organisée à Nairobi. En France, alerte maximum aux feux de forêt dans plusieurs départements du sud de la France. La préfecture de l'Hérault s'inquiète des rafales de vent. Enfin, un nouvel appel à la censure du gouvernement. Le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon fait monter la pression avant la rentrée. Les Européens abattent leur dernière carte au lendemain du sommet russo-américain en Alaska. Emmanuel Macron doit présider cet après-midi une réunion en visioconférence de la coalition des volontaires, des soutiens à l'Ukraine. Un échange avant la venue de Volodymyr Zelensky à Washington demain. Et on l'apprend ce midi, le président ukrainien viendra accompagné de plusieurs dirigeants européens. Ont pour l'instant confirmé leur présence le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, le président finlandais et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Face au duo Trump-Poutine, les Européens tentent de riposter, Christian Chéneau.
Avant le sommet de l'Alaska, Européens et Ukrainiens pensaient avoir convaincu Donald Trump d'imposer un cessez-le-feu à Vladimir Poutine. Or, rien ne s'est passé comme prévu. Soit le président américain a changé d'avis, soit il leur a menti. Au lieu de travailler un arrêt des combats qui ne sera pas respecté, autant rechercher un accord de paix définitif, a fait savoir le président américain sur son réseau Social Truth, reprenant à son compte la vision de Vladimir Poutine. Bref, l'idée du cessez-le-feu n'est plus à l'ordre du jour. Pris à contre-pied, les Européens semblent inaudibles après le sommet d'Anchorage. Ils martèlent que la paix ne se fera pas sans les Ukrainiens. Le problème, redoute un diplomate français, c'est la tentation de Donald Trump d'aller vite, de vouloir conclure un accord de paix rapidement, alors qu'il faut que les garanties de sécurité à l'Ukraine soient détaillées. Les Européens sont par ailleurs en porte-à-faux avec le président américain sur la question des sanctions. Ils se disent prêts à maintenir la pression financière et économique sur la Russie, alors que Donald Trump, lui, ne veut pas alourdir la facture pour Vladimir Poutine.
Christian Chéneau, la visioconférence entre les dirigeants européens débutera à 15h. Le président Volodymyr Zelensky est arrivé à Bruxelles pour y participer. Il flotte depuis ce matin sur la place des otages à Tel Aviv. Un immense drapeau israélien floqué du visage des personnes kidnappées par le Hamas. Jour de manifestation, aujourd'hui en Israël, un mouvement d'ampleur à l'appel des proches des otages retenus dans la bande de Gaza et qui intervient alors qu'Israël se prépare à prendre le contrôle de Gazaville et de camps de réfugiés voisins, selon le plan adopté par le gouvernement israélien la semaine dernière. Alice Moreno.
Une partie importante de la population redoute que l'évolution des opérations israéliennes dans la bande de Gaza ne mette en péril la sécurité des otages retenus dans l'enclave. C'est donc un important mouvement de grève qui a débuté ce matin dans le pays et plusieurs actions éparses déjà qui se tiennent tout au long de la journée. Des axes autoroutiers majeurs ont notamment été bloqués en début de matinée. L'essentiel de la mobilisation aura lieu ce soir à Tel Aviv où les proches des otages doivent s'exprimer. Des convois de véhicules seront mises en place dans l'après-midi afin que les manifestants puissent converger vers Tel Aviv. 1 million de personnes sont susceptibles de prendre part à la mobilisation. C'est en tout cas ce qu'indiquent les organisateurs qui promettent aussi que des dizaines de milliers de personnes participeront à une centaine d'autres événements ce dimanche. Ces manifestants dénoncent une offensive sans but qui ne sert que les intérêts de certaines personnalités politiques. À cela s'ajoute la fatigue des troupes déployées dans la bande de Gaza depuis maintenant près de 2 ans.
Israël, qui a mené ce matin des bombardements au Yémen et visé un site énergétique à Sanaa, la capitale du pays, aux mains des rebelles houthis. Des raids effectués en réponse aux attaques répétées contre l'État d'Israël et ses citoyens, a déclaré l'armée israélienne dans un communiqué. Les Boliviens sont aux urnes aujourd'hui pour élire leur président. Les deux candidats de droite sont en tête des sondages. Il faut donc s'attendre à une alternance après 20 ans de socialisme. Depuis l'élection d'Evo Morales en 2006, le président actuel sortant renonce à se présenter l'Élysée. Il est tenu responsable de l'inflation dans le pays qui frôle les 25%, un record depuis 17 ans. Cinquième soirée de tension dans plusieurs villes de Serbie. Des affrontements entre des manifestants anticorruption et les forces de police. Cette nuit, les heurts ont éclaté à Belgrade, mais aussi à Novi Sad et dans le centre du pays, à Valjevo. Deux permanences du parti au pouvoir, celui du président Aleksandar Vučić, ont été saccagées. La Serbie connaît une vague de manifestations quasi quotidiennes depuis novembre 2024 et l'effondrement du toit de la gare de Novi Sad, un accident qui avait fait 16 morts et que les opposants au régime imputent à la corruption du pouvoir en place. Des files d'attente interminables devant les McDonald's. Au Japon, les Pokémon entraînent la chaîne de fast-food américaine dans la tourmente. Le groupe de restauration rapide a l'habitude d'attirer les enfants en proposant des Happy Sets, des Happy Meals, des repas avec un cadeau, un jouet. Et en ce début de mois, il s'agissait de deux cartes Pokémon par menu. Mais l'affaire a tourné au fiasco et engendré des tonnes de gaspillage alimentaire. À Tokyo, les précisions de Karine Ishimura.
Ces cartes Pokémon exclusives étaient si attractives que des hordes de personnes se sont précipitées pour acheter des quantités folles de menus Happy Set avec ce cadeau, bien que McDonald's ait posé une relative limite, pas plus de 5 par personne. Le but des clients affamés était de s'emparer des cartes, bien évidemment, quitte à laisser les hamburgers sur place, à les mettre à la poubelle ou à recruter des mangeurs via Internet. Pourquoi ? Eh bien parce que ces cartes se revendent à des prix délirants sur des sites de seconde main au Japon et à l'étranger. Des adultes mal intentionnés ont parfois semé la zizanie autour et dans les restaurants. McDonald's a été forcé de poster un long message d'excuses. Pour autant, l'entreprise ne dit pas qu'elle va cesser ce type d'opération commerciale lucrative, bien qu'ayant déjà rencontré auparavant d'autres ennuis du même type. Elle a juste décidé de limiter davantage les ventes à chacun et de refuser des clients se conduisant mal ou soupçonnés d'acheter pour revendre.
La correspondance de Karine Nishimura pour France Culture. Il approche dangereusement des Caraïbes. L'ouragan Erin est passé en catégorie 5, la catégorie maximale avec des vents à 255 km/h. Il menace les îles Vierges américaines et britanniques ainsi que Porto Rico. Des risques d'inondations, de glissements de terrain et de coulées de boue. La tempête va passer aujourd'hui à l'est de Saint-Barthélemy. L'île française est sous surveillance. Erin est le premier ouragan de cette saison qui s'annonce plus intense que la normale d'après les prévisions des autorités météorologiques américaines. En Chine, 9 personnes sont mortes, 3 sont portées disparues dans le nord du pays en raison des inondations qui touchent la région de la Mongolie intérieure. Bilan encore provisoire, les victimes faisaient partie d'un groupe de campeurs qui se sont fait surprendre hier soir par une montée des eaux soudaine. Une personne a été secourue, plus de 700 sauveteurs participent toujours aux opérations de recherche des disparus. Au Kenya, l'art pour dénoncer la hausse des féminicides. L'exposition Maskan a ouvert cette semaine dans la capitale Nairobi. Maskan, cela veut dire la résidence, le foyer en langue swahili. Un nom choisi pour mettre en lumière la persistance des violences domestiques dans le pays. Les installations visibles sur place entendent rendre hommage aux victimes. La correspondance à Nairobi d'Alban Tiroir.
L'exposition commence avec une pile de chaussures tachées de rouge, 129 pour les 129 femmes qui ont été tuées entre janvier et mars au Kenya, selon la police. À côté, un mannequin de femme allongé sur un lit et recouvert de sang. L'objectif, bouleverser les visiteurs, c'est ce qu'explique Tayou, l'artiste derrière l'exposition.
Il y a différentes installations qui représentent diverses histoires de femmes que nous avons perdues au cours des dernières années. Pour moi, c'est très important de raconter ces histoires. J'ai parfois l'impression que nous sommes arrivés à un stade dans notre société où l'on se dit « une femme a été tuée et on passe à autre chose ». Nous sommes en train de devenir désensibilisés. Le but de cette exposition, c'est que les gens ressentent ce qu'ils doivent ressentir.
Le projet est en partenariat avec Usiki Miye, une ONG qui vient en aide aux victimes de violences liées au genre. Jerry Mugi en est la directrice exécutive. Elle dénonce des cas qui continuent d'augmenter.
Pour moi, ça vient du fait que les violences liées au genre restent impunies. Lorsqu'une femme se rend au poste mais qu'aucune action n'est prise, ça envoie un message clair aux agresseurs, qu'ils peuvent continuer et s'en tirer. La majorité des féminicides n'atteignent pas les tribunaux, les normes culturelles ont tendance à réduire les femmes au silence, ce qui nous mène à la situation d'aujourd'hui.
En début d'année dernière, des milliers de Kenyans sont descendus dans les rues pour dénoncer l'augmentation des violences meurtrières contre les femmes. Jerry souhaite que le gouvernement reconnaisse l'existence d'une crise nationale des féminicides. Cela permettrait, selon elle, d'engager des actions concrètes.
Alban Tiroir. Le département de l'Aude sous haute surveillance aujourd'hui. Le massif des Corbières, touché par un gigantesque incendie début août, à nouveau menacé. Tout le département est placé en risque extrême. Feu de forêt aujourd'hui, il fera 39 degrés avec des rafales à 60 km/h. Au total, 1200 pompiers sont en alerte tout le week-end sur le département. Par ailleurs, 5 autres sont en vigilance rouge. Incendie, le Gard, les Pyrénées-Orientales, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, ainsi que l'Hérault. La préfecture se dit inquiète. Pour la première fois depuis 3 ans, le risque atteint son niveau le plus élevé, selon le préfet de l'Hérault, François-Xavier Loche.
C'est le croisement de plusieurs facteurs. Une végétation qui est très sèche, une végétation abondante aussi, parce qu'on a eu des pluies de printemps, un taux d'humidité qui a beaucoup baissé. C'est l'effet du vent, de la canicule, et puis ce vent qui se lève aujourd'hui et qui nous inquiète. Et donc on espère ne pas avoir de départ, ne pas avoir trop de départs. Je rappelle que lors de la précédente canicule, on avait une journée avec 21 départs de feu la même journée. Ça devient tout de suite très difficile pour nos sapeurs-pompiers. Et donc si on peut s'éviter le moindre feu qui est produit par inadvertance, vraiment ça facilite la vie de tout le monde et ça peut éviter des conséquences. Je crois que tout le monde, tous les Français l'ont vu dans l'Aude, qui sont absolument catastrophiques et dont le chiffrage se compte en millions d'euros, sans compter les vies humaines évidemment, sans compter l'angoisse des populations. Je pense que ça vaut le coup aujourd'hui et demain de faire attention et c'est peut-être les 2 journées les plus difficiles qu'on a devant nous. C'est pour ça que j'ai souhaité le dire.
Le préfet de l'Hérault, François-Xavier Loche, interrogé par nos confrères de France Info. Dans l'actualité politique, alors que l'université d'été de la France Insoumise débutera la semaine prochaine, Jean-Luc Mélenchon prend aujourd'hui la parole dans la tribune dimanche. Le leader insoumis appelle à la censure du gouvernement Bayrou aux côtés de plusieurs cadres du mouvement. Elia Bergel, le chef de LFI, rejoint aussi l'appel à tout bloquer le 10 septembre prochain, lancé par des internautes.
Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis tentent de profiter du creux politique de l'été pour prendre de vitesse le reste de la gauche. Nous décidons de soutenir l'initiative populaire du 10 septembre, écrivent noir sur blanc les Insoumis dans cette tribune du jour. Cette journée de mobilisation relayée sur les réseaux sociaux pour le moment, sans réelle coordination, sans qu'aucun parti ou organisation n'ait la main dessus. LFI y voit des similitudes avec le mouvement des Gilets jaunes et ne veut pas rater le coche. Il y a une continuité, assume une députée. Et souvenez-vous, à l'époque, les grandes formations politiques d'opposition n'avaient pas vraiment réussi à capitaliser sur cette mobilisation des Gilets jaunes. On ne cherche pas à capitaliser, mais à faire entendre une colère sociale, se défend une élue insoumise. Mais dans les faits, LFI compte bien sur ce mouvement du 10 septembre pour augmenter la pression populaire sur François Bayrou et précipiter la chute de son gouvernement.
Élie Abergel. Et puis en plein été, comment faire cohabiter les randonneurs avec les patous, ces chiens chargés de protéger les troupeaux? De plus en plus d'agriculteurs ont choisi cette méthode pour surveiller leurs vaches et leurs moutons face au retour du loup. Mais en montagne, beaucoup de promeneurs ne savent pas comment réagir quand ils les croisent et se mettent parfois en danger. D'où la mission de l'association Férus. Tous les week-ends, ces bénévoles parcourent les sentiers près des fermes pour former les promeneurs aux bons gestes à adopter. Reportage à Roche-Jean, dans le Haut-Doubs, signé Charlotte Schumacher.
Au milieu d'un sentier tout proche d'une ferme, Laure, bénévole chez Férus, arrête un couple de cyclistes pour leur donner quelques conseils. Juste à côté, il y a 3 patous avec un troupeau.
En vélo, quand on croise des chiens de protection, il y a un bon conseil à donner, c'est de s'arrêter. De la même façon que quand on est à pied, ça laisse le temps au chien de constater que vous ne représentez pas une menace pour son troupeau.
Autre précieux conseil, ne surtout pas tenter de fuir.
Parce que ces chiens courent à 45 km/h, donc on arrivera difficilement à les semer.
Et pour les promeneurs qui ont eux-mêmes un chien.
C'est de se renseigner en amont de la promenade, de façon à identifier les zones où les troupeaux sont gardés et d'éviter formellement d'y aller.
Juché sur son vélo, Denis a bien tout écouté.
Oui, on connaissait déjà pas mal les conseils, parce qu'on fait pas mal de VTT, donc on essaie d'éviter aussi d'aller où il y en a.
Mais vous avez entendu à combien ça peut galoper,
ah oui,
pas tout.
Nous, on va pas si vite.
En temps normal, quand on a des chiens, déjà on s'arrête. Alors les patous...
Catherine, la femme de Denis, n'est pas très rassurée par les patous.
Ce jour, j'étais avec une copine sur une piste VTT et ils ont marqué une petite pancarte comme ils marquent attention, patou, tout ça. On n'a pas osé passer.
Et si leur apparence donne envie de les caresser, les patous, ces gros chiens tout doux, ce n'est absolument pas conseillé, rappelle l'association Férus.
Reportage d'ici Besançon. On termine ce journal avec la météo pour cet après-midi. La chaleur recule au nord mais résiste dans le sud de la France. Toujours 25 départements en vigilance canicule de la Loire-Atlantique en descendant jusque sur le pourtour méditerranéen. méditerranéen. Les températures pour cet après-midi au sud oscillent entre 35 et 37 degrés et atteindront jusqu'à 41 degrés dans le Languedoc-Roussillon. Dans la moitié nord, comptez entre 22 et 30 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec Brice Garcia à la technique, Ruben Carmazine.